vendredi 5 octobre 2018 et voici au quotidien des quotidiens. Avec vous pour les 90 prochaines minutes, François Brodeur en remplacement d'Hélène Denis. Hélène qui sera de retour mercredi. Mais je ne suis pas seul puisque Maurice Bolduc est fidèle au poste, m'accompagne. Et Maurice s'est intéressé à ce que l'histoire a réservé au 5 octobre au travers des siècles.
Ouais. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des enseignants-enseignantes. On les salue. Et c'est une profession. On salue les enseignants-enseignantes, tout simplement. Quel bel job pour nous faire grandir quand on est flot. En 1502, Christophe Colomb aborde la côte du Costa Rica. 1582, c'est un peu celle-ci, pas insolite, mais rigolote. C'est le début du calendrier grégorien, une initiative du pape Grégoire VIII le lendemain du 4 octobre est déclaré le 15 octobre pour corriger le calendrier julien qui était décalé par rapport au temps réel. Mm-hmm. Moi, je trouve ça rigolo. Tu te couches le 4, tu te réveilles, c'est le 15.
Oui, surtout si tu es payé deux fois par mois.
Ouais, puis là, oui, encore, tu vois, puis je manque de sommeil, tu sais, 15 jours plus tard. En 1793, le catholicisme perd son statut de religion d'État en France. En 1892, à Coffeyville, au Kansas, le gang des frères Dalton est décimé lors de l'attaque de deux banques. 1931, parti du Japon, Clyde Pangborn et Hugh Herndon complètent la première traversée sans escale du Pacifique, se posant dans l'État de Washington au bout de 41 heures. C'est la publication de Love Me Do en 1962, le premier single des Beatles. En 70, le diplomate anglais Richard James Cross est enlevé à Montréal par la cellule du FLQ, le Front de libération du Québec, et c'est le début de ce qu'on appelle la crise d'octobre. En 82, l'alpiniste, Laurie Skrellest, de Calgary, le premier Canadien à vaincre l'Everest. En 1984, Marc Garneau devient le premier Canadien à voyager en orbite autour de la Terre. 1989, le Dalai Lama, chef spirituel des Tibétains opprimés par le régime de Pékin, remporte le prix Nobel de la paix.
Ah, Pékin n'est pas d'accord. Pékin dit d'abord que le Dalai Lama est le chef de rien du tout, ouais, et que les Tibétains ne sont pas opprimés. Mais bon, le temps de ce message a été retenu, pays.
Oui, quel Tibet. Excuse-moi. En 2005, c'est la première fusillade de l'histoire dans la ligne nationale, spécifions quand même. Donc, les sénateurs d'Ottawa battent les Maple Leafs 3-2 cette journée-là en 2005.
Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le hockey, ça s'est passé avec des rondelles et des bâtons et non pas des armes à feu.
Oui, quand même, on est pacifique, relativement. En 2012, le présumé parrain de la mafia montréalaise, Vito Rizzuto, arrive à Toronto après avoir purgé 6 ans de prison dans un dossier de triple meurtre commis à New York en 1981. Et en 2013, un enquêteur à la retraite de la SPVM, Benoît Roberge, est arrêté pour avoir présumément vendu des informations aux Hells Angels en échange d'argent. On souligne une naissance aujourd'hui. Louis Lumière, un inventeur du cinématographe, naît en 1864. Quelques décès. Steve Jobs, ça a marqué beaucoup de gens. Ça, le cofondateur de Apple nous quittait en 2011. L'aviateur français Roland Garros, lui, nous quittait en 1918. Et en 1880, le compositeur français Jacques Offenbach nous quittait à son tour. Ça fait le tour de ce 5 octobre.
Merci beaucoup, Maurice. On commence sans plus attendre avec la presse et une nouvelle qui concerne au premier chef les personnes qui ont à vivre avec une situation de handicap, puisque Kathleen Lévesque nous apprend, et c'est le titre, que Montréal lance une consultation sur l'accessibilité. La responsable politique du développement social et communautaire au comité exécutif de Montréal, Rosanie Filato, a lancé jeudi une consultation publique en détaillant toutes les modalités de l'exercice. Elle n'a toutefois pu préciser ce qui était au cœur de la consultation, soit les problèmes auxquels se heurtent les citoyens ayant un handicap ou une limitation fonctionnelle pour accéder notamment aux services, aux immeubles, aux parcs et aux infrastructures sportives de la ville. Cette consultation sur l'accessibilité universelle doit permettre de revoir la politique en place, d'en accélérer la cadence, a affirmé Mme Filato en conférence de presse. Un plan est en voie d'élaboration par les services municipaux, mais la conseillère municipale n'a pas voulu en dévoiler les principales orientations ni même l'objectif. Selon elle, il serait prématuré qu'elle se prononce. Elle s'est bornée à indiquer que le plan serait dévoilé l'hiver prochain. À force de questions, de suggestions et de réponses soufflées par l'attaché de presse tout près d'elle, Mme Filato a donné quelques exemples de situations irritantes pour les personnes ayant un handicap auditif ou visuel ou qui se déplacent difficilement à cause de la vieillesse ou de toute autre limitation fonctionnelle. Circuler dans les parcs, y accéder alors que le bord du trottoir est trop haut et pique-niquer à des tables peu adaptées aux fauteuils roulants. Selon Émilie Lefrançois de l'organisme de défense des personnes ayant une déficience motrice ex-aequo, la ville ne peut pas se limiter aux immeubles lui appartenant. 40% sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La ville devrait jouer un rôle de leadership auprès des partenaires privés comme les commerçants. Il faut que les gens puissent magasiner et aller au restaurant. C'est souvent très difficile, affirme Mme Lefrançois. De son côté, Elsa Lavigne, de l'organisme Altergo, voué au loisir chez une clientèle handicapée, estime qu'il y a un manque criant de ressources financières et humaines à la ville pour prétendre à l'accessibilité universelle. Par exemple, elle soutient que les sommes consacrées par Montréal pour les loisirs correspondent à 650 $ par année par participant contre 5 000 à Québec. Madame Lefrançois et Lavigne soulignent également que l'expertise de la ville doit être développée. C'est important, d'autant que la prévalence de l'incapacité au Québec atteint 33% chez les personnes âgées de 15 ans et plus vivant en ménage privé ou collectif, mais non institutionnel, comme le démontre une enquête de l'Institut de la statistique du Québec. Les femmes et les personnes âgées de 65 ans et plus sont davantage touchées par l'incapacité, notamment lorsqu'il s'agit d'incapacités modérées ou graves. La consultation montréalaise se déroulera du 15 octobre au 30 novembre. Elle prendra la forme d'un sondage en ligne ou par téléphone. Il y aura également 6 rencontres d'échange en novembre, dont les détails seront publiés sur le site Internet de la ville. Beau défi pour le nouveau gouvernement de François Legault. En fait, c'est un défi qu'on pourrait presque qualifier de récurrent. Bruno Bisson, dans la presse, nous apprend, c'est le titre, « Le réseau routier croule plus vite qu'on peut le réparer ». Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports ne parviendra pas à freiner la détérioration des ponts, des structures et des chaussées de son réseau routier dans les prochaines années, même s'il réalise tous les chantiers prévus jusqu'en 2020, qui totalisent près de 5 milliards de dollars. Dans un avis transmis au sous-ministre des Transports Marc Lacroix au début de cette année, un comité formé de 3 experts indépendants brosse un portrait préoccupant de la capacité financière et opérationnelle du ministère à atteindre les cibles fixées pour améliorer l'état de ses ponts et de ses chaussées. Ces 3 experts étaient appelés à fournir un avis sur la programmation 2018-2020 des travaux routiers du ministère annoncés en mars dernier. Cette programmation prévoit des investissements de 4,8 milliards pour financer la construction ou la réfection des 674 ponts sur le réseau routier supérieur, 263 ponts sur les réseaux municipaux, un total de plus de 2000 chantiers. Se réjouissant de l'augmentation prévue du niveau d'activité par rapport à l'exercice précédent, le comité conclut toutefois que même si tous les travaux programmés étaient pleinement réalisés, le résultat ne permettrait pas d'atteindre les cibles du plan stratégique 2017-2020 à l'égard du pourcentage des structures et des chaussées en bon état. En fait, il y aura une détérioration au cours des prochaines années selon les prévisions du ministère. Ce comité est formé par Jean Bédard, professeur de comptabilité et gouvernance des sociétés à l'Université Laval, Jacques Girard, ingénieur et expert en travaux routiers et en normalisation, et Louis Lévesque, ancien sous-ministre de Transport et Infrastructures Canada. C'est la deuxième fois que ces experts sont appelés à se pencher sur les travaux du ministère. Pour assurer la réalisation d'un volume de travaux suffisant pour améliorer l'état des points chaussés du Québec, les experts plaident pour une augmentation de la capacité opérationnelle et des ressources financières du ministère, tout en identifiant une de ses principales faiblesses, des carences au niveau des ressources humaines, en nombre ou en compétences, ou en impact, ont un impact important sur la capacité à préparer des projets. Voilà donc un beau défi pour François Legault qui, je vous le rappelle, vise l'attrition du nombre de fonctionnaires et non son augmentation. Et puisque j'en suis à parler de François Legault, parlons d'interdiction du port de signes religieux, puisque ça fait déjà des vagues, on peut dire qu'il commence fort, c'était dans à peu près tous les journaux au Québec aujourd'hui. L'intention du nouveau gouvernement de la CAQ d'interdire le port de signes religieux pour les employés de l'État en situation d'autorité et les enseignants est accueillie avec un mélange d'inquiétude et d'optimisme dans les milieux scolaires. Des enseignants qui portent des symboles religieux doutent que l'interdiction promise par le gouvernement caquiste fasse son chemin. Ça me fait de la peine de voir qu'on recommence ce discours-là, de voir qu'on est encore en train de trouver une solution à un problème qui n'existe pas. Michael Bensemana travaille à l'école Saint-Laurent dans l'arrondissement du même nom. De confession juive, le professeur de 44 ans, né au Québec, est l'un des rares enseignants de la commission scolaire Marguerite Bourgeois à porter la kippa. Dans cette école multiethnique où il enseigne l'anglais depuis 15 ans, jamais le symbole religieux qu'il porte en classe n'est un sujet de discorde, pas même un sujet de discussion. Tout au plus a-t-il reçu quelques questions, comme on questionnerait quelqu'un sur sa coupe de cheveux. Si le nouveau gouvernement caquiste donne vie à son projet d'interdiction du port de tout symbole religieux aux personnes en situation d'autorité, juges, policiers, procureurs de la couronne, gardiens de prison et enseignants, M. Bensemana perdrait vraisemblablement son emploi s'il persistait à porter la kippa en classe. Comme une collègue féminine perdrait le sien si elle conservait son voile, par exemple. L'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec estime d'ailleurs que le gouvernement de François Legault veut faire des enseignantes musulmanes de la chair à canon pour le débat public. M. Bensemana préfère toutefois ne pas sauter aux conclusions trop vite. Il n'y a pas de projet de loi sur la table. Alors je ne me lancerai pas dans des discussions sur une théorie, dit-il. Je ne suis pas inquiet tant qu'aucune loi n'est votée. Mick Gutman abonde dans le même sens. Juif orthodoxe d'origine roumaine, arrivé au Québec en 2002, il porte lui aussi la kippa à l'école et se dit optimiste, estimant qu'un éventuel projet de loi ne passerait pas le test des tribunaux. En fait, il s'interroge sur les fondements même de l'argumentaire caquiste quant à la situation d'autorité des enseignants. « Sommes-nous réellement en situation de pouvoir ?» demande le professeur de musique à l'école Yonad en Côte-des-Neiges. Le gouvernement pense-t-il qu'on fait du prosélytisme dans nos écoles? Ça n'a pas de sens. Il me semble qu'il y aurait plusieurs étapes à franchir avant d'interdire des signes qui, par ailleurs, ne sont pas si ostentatoires. À cet égard, M. Gutman soulève que le gouvernement pourrait commencer par faire quelque chose avec le crucifié à l'Assemblée nationale. Les deux hommes soulignent par ailleurs que chaque fois que le débat sur le port de symboles religieux a fait surface par le passé, leurs collègues de travail de toutes origines avaient fait preuve de solidarité face à leur cause et ils ont toujours bon espoir que les enseignants échapperont au bout du compte au projet caquiste. Allez, aux États-Unis, la plus discutée des nominations de Donald Trump et peut-être la plus discutable continue de faire son chemin. L'agence France-Presse nous apprend que le Sénat est prêt à voter sur le juge Kavanaugh. Le Sénat américain devrait aborder vendredi l'avant-dernière étape de la confirmation de la Cour suprême de Brett Kavanaugh, qui assure être un juge impartial et indépendant après avoir été blanchi, selon les sénateurs républicains, des accusations d'abus sexuels le visant. Un vote de procédure pourrait être soumis aux sénateurs dans la matinée avant-dernière marche avant un vote final, peut-être le lendemain. La Maison-Blanche s'est dite confiante dans l'issue du scrutin. En rassemblement dans le Minnesota, Donald Trump a même estimé jeudi soir que l'affaire Kavanaugh, qui tient les Américains en haleine depuis plusieurs semaines maintenant, était de nature à mobiliser l'électorat républicain à l'approche des élections parlementaires du 6 novembre. Il suffit de regarder les sondages des 3 ou 4 derniers jours pour voir que la résistance des démocrates, alimentée par la colère, est en train de se retourner contre eux comme jamais, a lancé le président américain, conforté par un rapport du FBI qui ne confirme pas les accusations portées contre M. Kavanaugh. Démarche extrêmement rare pour un candidat à la Cour suprême, ce dernier s'explique dans une tribune qui paraît vendredi dans le Wall Street Journal. Se disant être un juge indépendant, impartial, il y reconnaît avoir été peut-être trop ému lors de son audition devant le Sénat la semaine dernière, au cours de laquelle il avait usé d'un ton tranchant. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. J'espère que tout le monde peut comprendre que j'étais là-bas en tant que fils, mari et père, se justifie-t-il. Le juge Kavanaugh, un brillant magistrat, héros des valeurs conservatrices, était en bonne voie d'être confirmé quand une femme est sortie de l'ombre à la mi-septembre pour l'accuser d'une tentative de viol remontant à une soirée entre écoliers en 1982. Lors d'une audition suivie par 20 millions d'Américains, Kristen Blasey Ford, une universitaire de 51 ans, s'est dite sûre à 100% d'avoir été agressée par le jeune Kavanaugh. Le magistrat s'est dit tout aussi certain de son innocence. Confronté à deux vérités irréconciliables, le Sénat avait, sous la pression d'élus indécis, demandé un complément d'enquête au FBI qui a rendu son rapport confidentiel mercredi soir à la Maison-Blanche. Les sénateurs ont pu en consulter une copie jeudi dans une salle fermée. Les républicains en sont sortis ragaillardis, les démocrates frustrés. Il n'y a rien de nouveau dans ce rapport. Cette enquête n'a trouvé aucune trace de comportement inapproprié, a estimé le chef républicain de la commission judiciaire du Sénat, Chuck Grassley. Espérons que dans 48 heures, nous aurons un nouvel arrivant à la Cour suprême, a-t-il ajouté. Ce qui est notable dans ce rapport, ce n'est pas ce qui est dedans, mais ce qui n'y est pas, a rétorqué la sénatrice démocrate Dianne Feinstein, dénonçant une enquête incomplète, probablement contrainte par la Maison-Blanche. S'il y avait eu 100 enquêtes du FBI, les démocrates obstructionnistes auraient encore trouvé à redire, réplique Donald Trump. Donc on verra dans les prochains jours si finalement le juge Kavanaugh pourra siéger toute sa vie à la Cour suprême.
Mon père aussi m'a marié. Je m'en vais rouler, un incivil il m'a donné. Je me roule, roule. Qu'il en a, je m'en vais rouler, enfilant ma quenouille. Un incivil. Je m'en vais rouler en filant ma quenouille. Qui n'a ni maille ni denier, guélant là, je m'en vais rouler qu'un vieux bâton de verre premier. Je me roule, roule. Guélant là, je m'en vais rouler. Un vieux bâton de verre pommier, guélon là, je m'en vais rouler, avec trois mambales à côté, je me roule, roule. Guélon là, je m'en vais rouler, enfilant ma quenouille. Je m'en vais rouler en filant.
Kate et Anna McGarrigle enfilant ma quenouille.
Et de là, on passe au devoir et on commence par la caricature. Tiens, une caricature de Garnot que je vous décris immédiatement. On y voit au premier plan Philippe Couillard, une main sur le cœur, qui dit « Qui sait? Un jour, les Québécois regretteront peut-être les jours où j'étais chef du PLQ. » Et derrière une porte du Parti libéral qui s'ouvre derrière, on voit Gaétan Barrette qui apparaît et qui est prêt à faire main basse sur le parti. Voilà pour la caricature. De là, on s'en va à Stockholm. Stockholm, où le Nobel de la paix a été décerné. Pierre-Henri Déhay de l'Agence France-Presse nous en parle. Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi au médecin congolais Denis Mukwege et à la yazidi Nadia Mourad, ex-esclave du groupe État islamique, deux champions de la lutte contre les violences sexuelles employées contre armes de guerre dans les conflits. L'un, gynécologue de 63 ans, l'autre victime de 25 ans devenue porte-parole d'une cause, Denis Mukwege et Nadia Mourad incarnent un élan planétaire qui dépasse le cadre des seuls conflits, comme en témoigne le raz-de-marée MeToo déclenché il y a un an jour pour jour par des révélations de presse. Ils sont récompensés pour leurs efforts pour mettre fin à l'emploi de violences sexuelles en tant qu'arme de guerre, a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen. Denis Mukwege est quelqu'un qui a dédié sa vie à la défense des victimes des violences sexuelles perpétrées en temps de guerre. Sa co-lauréate, Nadia Mourad, est le témoin qui relate les abus perpétrés à son encontre et d'autres, a souligné Mme Reiss-Andersen. Femme, enfant et même bébé de quelques mois, Denis Mukwege a soigné quelques 50 000 victimes de viol à l'hôpital de Panzi qu'il a fondé en 1999 à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons pu tracer la ligne rouge contre l'arme chimique, l'arme biologique, l'arme nucléaire. Aujourd'hui, nous devons aussi mettre une ligne rouge contre le viol comme arme de guerre, déclarait-il à l'Agence France-Presse en 2016. Sa co-lauréate irakienne, Nadia Mourad, issue de la minorité yazidi, a elle-même vécu ces horreurs dans sa chair. Comme des milliers de filles et de femmes de sa communauté, la jeune femme a été réduite en esclavage sexuel par le groupe djihadiste État islamique en 2014 avant de parvenir à s'évader. La première chose qu'ils ont faite, c'est de nous forcer à nous convertir à l'islam, confiait-elle à l'AFP il y a 2 ans. Après, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ambassadrice de l'ONU pour la dignité des victimes du trafic d'êtres humains depuis 2016, Nadia Mourad, dont 6 frères et la mère ont été tués par l'État islamique, milite désormais pour que les persécutions commises contre les yazidis soient considérées comme un génocide. « On ne s'habitue jamais à raconter son histoire. On la revit chaque fois », confie-t-elle dans son livre « Pour que je sois la dernière ». Mais mon histoire, relatée honnêtement et prosaïquement, est l'arme la plus efficace dont je dispose pour lutter contre le terrorisme, et j'ai bien l'intention de m'en servir jusqu'à ce que ces criminels soient traduits en justice. Dans sa chronique, Manon Cornelier fait le point sur les visées que poursuivent les administrations provinciales en s'opposant au plan d'Ottawa pour une bourse du carbone fédérale. Ça nous donne un texte intitulé « Les calculs des opposants au plan canadien pour le climat ». Le Manitoba a rejoint pour de bon les opposants au plan canadien de lutte contre les changements climatiques. Mercredi, le premier ministre Brian Pallister a annoncé qu'il n'irait pas de l'avant avec sa propre taxe sur le carbone et a laissé entendre qu'il pourrait se joindre à l'Ontario et à la Saskatchewan qui contestent la taxe sur le carbone fédérale devant les tribunaux. Cette nouvelle tuile pourrait ne pas être la dernière pour le gouvernement Trudeau, puisqu'on ignore toujours qui formera le gouvernement Nouveau-Brunswick. Les progressistes conservateurs ont toutefois averti qu'une fois au pouvoir, ils rejoindraient la fronde menée par leurs frères politiques. La taxe fédérale sur le carbone doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Elle sera de 20 $ la tonne et augmentera de 10 $ par année pour atteindre 50 $ en 2022. Elle s'appliquera dans les provinces n'ayant pas un plan de réduction des émissions capable de respecter les cibles fédérales. La Saskatchewan a refusé de soumettre son plan pour examen. Le gouvernement ontarien de Doug Ford, lui, a mis fin au programme de plafond et d'échange de crédits d'émission. Le Manitoba, qui prévoyait d'imposer une taxe de 25 $ la tonne en janvier, refusait de la hausser les années suivantes, d'où son recul. Il y a quelques mois, M. Pallister disait pourtant avoir un avis juridique confirmant le pouvoir du gouvernement fédéral d'imposer une taxe sur le carbone. La résistance de ces provinces aura un prix. Ottawa a averti que leur retrait pourrait faire perdre leur part des 2 milliards de fonds fédéraux prévus dans le plan canadien. Mais le calcul de ces gouvernements conservateurs et de leurs alliés fédéraux n'est de toute évidence pas financier, mais politique. Les libéraux fédéraux doivent faire face à l'électorat dans un an. En les laissant imposer leurs taxes sur le carbone, les provinces dissidentes les forcent à porter l'odieux de la hausse du prix de l'essence, du mazout de chauffage, du gaz naturel et ainsi de suite. L'opposition sait aussi qu'après l'achat du pipeline Trans Mountain, les libéraux ne peuvent plus reculer à moins de faire pour toujours une croix sur ce qui peut leur rester de vernis vert. Le gouvernement Trudeau a un atout dans son jeu cependant. Il a promis que chaque dollar récolté dans une province y retournerait. On a cru un moment que les fonds aboutiraient dans les mains des provinces qui auraient pu, au détriment des libéraux fédéraux, prendre le crédit d'éventuels allègements fiscaux. Les libéraux ont vu le piège et, dans le dernier projet de loi budgétaire, se sont accordés le pouvoir de verser directement aux citoyens les revenus de la taxe sur le carbone. Selon une étude publiée à la fin septembre par le groupe Clean Prosperity, un tel scénario ferait en sorte que pratiquement tous les contribuables des provinces concernées y gagneraient au change. Encore faut-il que le gouvernement Trudeau en ait le temps avant le scrutin d'octobre 2019. Oui, encore quelques secondes pour vous dire qu'en matière de francophonie, la France mène actuellement un balai diplomatique puisqu'elle milite pour remplacer Michaël Jean à la tête de l'organisation. On cherche à ménager Justin Trudeau dans le processus pour ne pas lui faire perdre la face. Par ailleurs, Mme Jean a de moins en moins d'appui au Québec avec l'arrivée de François Legault et à Ottawa où l'appui semble se mitiger beaucoup. C'est donc à suivre, mais il est fort probable que la francophonie aura une nouvelle présidente après le sommet d'Erevan.
Un souvenir de plus du pauvre oiseau. sail perce l'oiseau gris de ses rêves doux, rayon comme des aigus, une poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau gris de ses rêves doux, rayon comme des aigus, une poupée vaudou. Rien que je te mette à briller des longs droits lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur le palais de tes yeux. Rien que je te mette à l'abri des longs doigts lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords. Infatigable oiseau moqueur, pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords. Infatigable oiseau.
La formation, oui, la formation Feu Chatterton, l'oiseau.
Et dans le journal de Montréal, il était beaucoup, beaucoup question de politique aujourd'hui. Mais si vous me le permettez, je vais commencer avec un sujet qui usuellement fait consensus chez les Québécois. Je vais vous parler de météo. L'agence QMI, donc, nous parle de la longue fin de semaine qui s'en vient. Une longue fin de semaine mitigée entre pluie et soleil. Averses, soleil et vent, le temps s'annonce mitigé pour la longue fin de semaine de l'Action de grâce. Des avertissements de gel ont également été émis par Environnement Canada pour plusieurs secteurs du Québec. L'avis est notamment en vigueur pour les Laurentides, Lanaudière, La Beauce, Charlevoix, Drummondville, Lestrie, Gatineau, la Mauricie, Montmagny, la région de Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Vallée-du-Richelieu et Vaudreuil. Le gel pourrait détruire les cultures fruitières, les plants de légumes ainsi que d'autres plantes, a indiqué l'organisme fédéral le jeudi soir. À Montréal, comme à Québec, la journée sera généralement ensoleillée. Demain, il fera respectivement un maximum de 11 degrés Celsius et 10 degrés. Pardon, demain, c'est plutôt aujourd'hui. Samedi, le mercure sera à la hausse en raison d'un système dépressionnaire qui va s'installer graduellement sur le Québec. Le ciel sera ennuagé, des averses sont attendues dans l'ouest de la province. À Montréal et Québec, la journée sera ponctuée par une alternance de soleil et de nuages. Le mercure affichera 14 et 11 degrés Celsius. Le ciel sera gris tout au long de la journée de dimanche. À Montréal, on attend 40 % de probabilité d'averse, tandis que les températures continueront d'augmenter puisque le mercure affichera un maximum de 20 degrés Celsius. Le scénario risque d'être similaire pour Québec où la journée sera nuageuse avec 40 % de possibilité d'averse. Lundi, le soleil sera de retour sur certains secteurs, comme à Québec, où il fera 14 degrés Celsius. À Montréal, toutefois, la pluie et les nuages devraient rester dans le paysage encore plusieurs jours. Bon, ça va faire le consensus. On parle de politique. Bon, hier, Philippe Couillard annonçait son départ de la vie politique active. Jonathan Trudeau signe un texte dans le Journal de Montréal intitulé « L'héritage de Couillard ». Philippe Couillard aura eu droit à un seul mandat pour faire sa marque dans l'histoire du Québec. Que retiendra-t-on de son règne? Et il est toujours périlleux d'effectuer ce type d'exercice sans avoir pris un important recul. Après tout, ce n'est qu'après bon nombre d'années que nous pouvons réellement mesurer l'empreinte laissée par un gouvernement. Cependant, nous pouvons déjà apporter certaines observations quant aux années Couillard. Le bon? Le bilan du premier ministre sortant est loin d'être mauvais. Les finances publiques sont en santé, le taux de chômage a atteint un plancher record, l'économie roule à plein régime. Bref, le Québec se porte bien. Évidemment, il y aura toujours lieu de critiquer la manière avec laquelle le gouvernement s'y est pris pour redresser la situation. Comme plusieurs, j'aurais préféré plus d'audace et d'ingéniosité, exploiter davantage nos ressources tout en étant responsable, couper dans le gaspillage plutôt que de restreindre à l'accès la hausse des dépenses. Il n'en demeure pas moins que Couillard et sa bande avaient remis la maison en ordre et s'apprêtaient maintenant à réinvestir massivement dans diverses sphères, dont l'éducation et la santé, pour maintenir et peut-être même accroître cet élan. Le moins bon. Mais il y a le négatif aussi. Un gouvernement entêté, incapable de reconnaître ses torts. Un premier ministre souvent dogmatique qui refuse de prendre en considération les points de vue contraires aux siens, préférant diaboliser l'autre plutôt que de dialoguer. Face à l'adversité, Philippe Couillard montrait souvent le moins beau côté de sa personne. Alors, est-ce que M. Couillard méritait un meilleur sort? N'eût été la lassitude de la population découlant de 15 années de gouvernance libérale quasi ininterrompue, je suis porté à croire que les électeurs lui auraient donné la chance d'aller plus loin. Mais sans avoir été mauvais, Philippe Couillard n'aura pas été assez bon pour contrer le fort désir de changement des Québécois. Et pour vous donner une idée de à quel point ce désir de changement-là s'est manifesté, Charles Lecavalier, toujours dans le Journal de Montréal, signe quant à lui un texte intitulé « Le Parti libéral du Québec derrière Québec solidaire dans 43 comtés ». Le Parti libéral est devenu un tiers parti chez les francophones et a terminé derrière Québec solidaire dans 43 circonscriptions lors de l'élection historique de lundi. Sans dire long, Québec solidaire est un parti émergent qui avait avant la campagne électorale autour de 8 % d'appui. De se retrouver derrière eux dans un si grand nombre de comtés, sans dire long, dit Jean-Hermann Gay, politologue et professeur à l'Université de Sherbrooke. Le Parti libéral du Québec a subi l'une de ses pires dégelées électorales de ses 150 ans d'histoire. Il a disparu de l'Abitibi, de la Mauricie, de l'Estrie et des Laurentides. Il ne lui reste que 3 circonscriptions sur 22 en Montérégie. À Québec, il n'a qu'un seul représentant. Mais le petit nombre de députés ne dit pas tout. Le recul des appuis du Parti libéral dans les comtés où il a perdu est frappant. Il a terminé bon quatrième à 33 reprises. Dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, le ministre sortant de la faune, Luc Blanchette, a subi ce triste sort. C'est un tiers parti dans les comtés francophones, note le politologue Éric Montigny, professeur à l'Université Laval. Les données compilées par le journal sont, selon lui, frappantes et parlantes. Jean-Hermann Gay en rajoute. Chez les francophones, c'est relativement clair qu'ils sont un tiers parti. C'est un désastre, dit-il. À 16 reprises, les libéraux ont fini troisième. Dans Green Bay, Arthabaska ou Drummond-Boisfranc, c'est Québec solidaire qui a terminé sur la deuxième marche du podium. Cette mauvaise performance aura des conséquences financières. Dans 39 comtés, les libéraux n'ont pas fait leur dépôt, c'est-à-dire qu'ils ont récolté moins de 15 % d'appui. Ils n'auront pas droit à un remboursement de 50 % de leurs dépenses électorales. C'est sans compter le financement étatique, basé sur le nombre de votes reçus. Entre 2014 et 2018, le Parti libéral a perdu près de 800 000 voix. Le calcul préliminaire, c'est qu'ils vont perdre 1,6 million par année. Ils recevaient auparavant près de 4 millions par année, dit le professeur Montigny. Cet affaiblissement démontre, selon M. Montigny, que le Parti libéral est en crise et qu'il y a eu un réalignement. C'est pas juste une question d'usure. Il y a eu un changement structurel, note-t-il. Par exemple, dans Papineau, une circonscription de l'Outaouais rouge depuis 1981, le député libéral Alexandre Iraka a été écrasé par le caquiste Mathieu Lacombe qui a obtenu une majorité de 8 600 voix. C'est un éclatement du nivelage oui-non référendaire. Ce ne sont plus les mêmes lignes de fracture. Elles sont maintenant linguistiques, entre la gauche et la droite, entre le multiculturalisme et le nationalisme, par exemple, a-t-il dit. Donc, en quelques chiffres, quatrième dans 33 circonscriptions, troisième dans 16, 43 circonscriptions où il a terminé derrière Québec solidaire, 39 circonscriptions où les libéraux ont eu moins de 15 % des voix. Et le pire résultat, 5 % dans le comté de Rousseau sur la rive nord de Montréal. Ah, les motards, ils ont pas beaucoup d'amis. Eh bien, il y en a un qui vient de se manifester, ce que rapporte Éric Thibault. Un gros lobby pro-armes appuie les motards. Près de 100 motards québécois qui ont perdu leur permis d'armes à feu parce qu'ils sont liés à des bandes hors la loi auront l'appui de la NRA canadienne pour demander aux tribunaux de corriger le tir. Le journal a appris que l'Association canadienne des armes à feu, ou la National Firearms Association, la NFA, c'est l'équivalent au Canada de la National Rifle Association américaine, offre sur son site web des conseils juridiques et de l'aide à tous les motards qui se sont fait désarmer la semaine dernière. La NFA, le plus gros lobby pro-armes au pays avec plus de 70 000 membres, a qualifié de hautement préoccupante cette vague de révocation de permis décrétée par le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs qui relève de la Sûreté du Québec. Nous n'appuyons pas les groupes de motards criminels et nous ne voulons pas qu'ils puissent avoir des armes à feu. Mais nous croyons que les gens injustement ciblés par cette mesure au Québec n'ont rien à se reprocher et qu'ils ne devraient pas avoir à rendre leurs armes, a argué le président de la NFA, Sheldon Clare, en entrevue téléphonique. Selon lui, plusieurs amateurs de moto visés par ces révocations sont membres de la NFA et se sont plaints auprès d'elle. Ces membres nous disent qu'ils n'ont rien fait de mal, qu'ils n'ont pas de casier judiciaire et estiment que la SQ les a déclarés coupables par association, a plaidé M. Clare. C'est contraire à la Charte des droits et libertés et nous allons les aider à contester ce processus devant les tribunaux. Comme le journal le rapportait hier, la SQ a accentué la pression sur les 87 Hells Angels et leurs 580 motards affiliés ou sympathisants au Québec qui sont plus nombreux que jamais. Profitant des renseignements des squads de lutte au crime organisé, les autorités ont révoqué pour des motifs de sécurité publique les permis de 82 motards, en plus de refuser de nouvelles demandes de 14 autres motards. Les détenteurs avaient surtout des armes de chasse. Allez, une nouvelle qui est dans l'air du temps. Alex Drouin nous rapporte que, et c'est le titre, des cégepsiens se feront payer du pot. Plusieurs étudiants du cégep de Sherbrooke sont mécontents à la suite de la décision de leur association étudiante de rembourser l'achat de cannabis pour certains parties de session. Les étudiants du cégep ont adopté une résolution cette semaine qui permet à l'association étudiante du cégep de Sherbrooke de payer du cannabis lors de parties, révélait la Tribune jeudi matin. L'association payait déjà de l'alcool à ses membres adultes dans le passé avec les 25 $ de cotisation que les étudiants doivent payer en début d'année. Avec la légalisation du cannabis prévue le 17 octobre, ils pourront maintenant leur payer du pot. Eh bien, sachez qu'il ne devrait pas y avoir plus que les 500 $ qui ont été versés l'an dernier pour des achats d'alcool, rapporte l'association.
Sweet.
La valse des trottoirs par Chose Sauvage.
Et de là, on passe à la presse régionale, en commençant par Sherbrooke, puisqu'on vient de donner une nouvelle un peu équivoque sur le cégep. Eh bien, on va en donner une autre et une bonne. Le cégep de Sherbrooke parrainera des réfugiés, ce que signe Isabelle Pion. Le cégep de Sherbrooke aura désormais son programme pour étudiants réfugiés. Les étudiants ont accepté, en assemblée générale, mercredi, de hausser leur cotisation de 1,50 $ par étudiant par session à compter de janvier, afin de démarrer une telle initiative. L'établissement emboîte ainsi le pas à d'autres institutions de la religion, dont l'Université Bishops et le Collège Champlain. Ce programme a été mis sur pied par l'Entraide universitaire mondiale du Canada. En plus de la contribution financière des étudiants, le comité local du cégep a aussi reçu l'appui financier du syndicat du personnel enseignant du cégep de Sherbrooke, précise Isabelle Damour-Millette, une étudiante du cégep impliquée dans cette initiative. Le SPEC s'est engagé à donner 10 000 $ sur 5 ans au projet. Les sommes permettront de faire une première demande de parrainage en novembre et d'accueillir un premier étudiant à l'été 2019. À la suite de la demande de parrainage, des candidatures pourront être évaluées pendant l'hiver. Ils vont vous envoyer des candidatures à même les camps, note M. Alain Sévigny, en précisant qu'il faudra vérifier l'admissibilité des candidatures. Si vous vous trouvez dans le Vieux-Québec demain, que vous avez l'impression qu'il y a du monde en ville, eh bien, c'est pas une illusion parce que, sachez-le, demain à Québec, au port, il va y avoir 7 navires de croisière. Pas un, pas deux, pas trois à la fois, 7 d'un coup. C'est tout près du record qui avait été atteint l'an dernier, le 30 septembre, alors que 8 bateaux de croisière faisaient escale à Québec. Ceci dit, on passe donc dans les pages du Soleil où Mylène Moisan nous parle de santé mentale. Mars 2004, le fils de Michel Véraud est revenu à la maison pour la semaine de relâche. Michel l'a trouvé moins enjoué, a remarqué des comportements inhabituels. Son fils lisait la Bible. Il n'avait jamais lu la Bible. Michel ne savait pas, il n'aurait pas pu imaginer que son garçon était en train de perdre pied, lentement mais sûrement, qu'environ un mois plus tard, il allait recevoir un coup de fil de l'université américaine où son fils étudiait. Je suis allé le chercher. Jusque-là, le garçon de Michel avait toujours été premier de classe, premier partout. Il a toujours été très performant. Il a été président de son école, athlète de l'année. Il a gagné tous les trophées possibles. Il lisait, il faisait de la musique, du sport, et il paraissait bien, très bien. À 22 ans, son fils a sombré. Il était en psychose. On ne l'a pas vu venir. On l'a trouvé différent pendant la semaine de relâche. Il avait l'air en dehors de notre monde, mais on a mis ça sur le compte du stress, des examens qui s'en venaient. Il n'a plus remis les pieds à l'université. A passé 10 mois à l'hôpital. Michel Véraud, qui était à la tête d'une des plus grosses entreprises de construction de Québec, a affronté la tempête. Ton fils, c'est toujours ton fils, peu importe ce qu'il a. On s'en est occupé. J'ai avisé tout le monde au bureau. Je n'avais pas de cachette à faire et je ne voulais pas me mentir à moi-même. Il a accepté. On a vécu avec ça. Il ne faut pas vivre dans la peur. Il faut accepter les conséquences possibles comme le suicide. Tu vis avec ce portrait-là. Tu ne contrôles rien. Ils peuvent ne pas t'écouter. Son fils a été traité à l'Institut de santé mentale de Québec. Ils ont réussi à trouver la bonne recette de médication. Aujourd'hui, son garçon prend toujours sa médication. Il doit la prendre tout le temps, sinon il va faire une rechute. Il arrive ainsi à avoir une qualité de vie correcte. Il n'est pas malheureux. L'homme d'affaires aurait pu se contenter de s'occuper de son fils. Il a décidé de s'impliquer pour éviter à d'autres ce qu'il avait vécu. La maladie, on ne l'a pas vu venir. On ne connaissait pas les symptômes. Et les psychiatres nous ont dit que si on était intervenu à ce moment-là, on aurait peut-être pu éviter le pire. Il aurait tellement voulu savoir pour pouvoir réagir plus tôt. Je veux que les parents connaissent les symptômes. Je veux conscientiser les gens que leurs enfants peuvent avoir la même chose que mon fils a eu, que ça peut arriver dans les meilleures familles. Le premier conseil que j'ai reçu, c'est de ne pas me blâmer. En 2006, Michel Véraud s'est impliqué dans ce qui s'appelait la Fondation Robert Giffard, devenue la fondation de l'Institut en santé mentale de Québec. Il a pris la direction de la fondation en 2012, a changé son nom en janvier 2017 pour Cerveau, C-E-R-V-O, parce que ça dit ce que ça dit. La maladie mentale, c'est d'abord une maladie de cerveau, comme le foie, le cœur, les reins. Environ une personne sur cinq en sera atteinte au cours de sa vie. La dépression fait chaque année plus de victimes au Québec que les accidents de la route. En plus de faire de la sensibilisation et d'aiguiller les personnes vers les ressources, la Fondation Cerveau finance aussi des recherches en santé mentale. Le centre de recherche n'est pas très connu, et pourtant il y a des sommités qui y travaillent. On ne peut pas imaginer ce qui se fait ici. Voyez. Ils sont parvenus à mettre au point un premier test pour évaluer par une analyse de la rétine les prédispositions à la maladie mentale. L'appareil en est à l'étape de l'homologation. Ce serait le premier test biologique mondial. Ça permettrait de prévenir, de détecter les gens, les enfants qui sont à risque. Il l'a fait passer à son petit-fils. Tout est correct. Ce serait un pas de géant. Aux grandes ambitions, les grands moyens, la Fondation Cerveau s'est fixé un objectif de 10 millions de dollars. Michel en a donné un à titre personnel. Il voulait le faire anonyme, mais ses collègues lui ont suggéré de le faire publiquement. « Je fais ce don pour la recherche, pour les soins et les services, et pour convaincre les autres de donner. Si les gens voient que les administrateurs y croient assez pour donner, ils vont se dire « on va donner aussi ». Le but, c'est la cause. C'est pour ça qu'il a accepté de raconter son histoire. Je ne le fais pas juste pour mon fils, mais pour les autres. À Gatineau aussi, on parle de cannabis, mais dans ce cas-ci, c'est la municipalité qui se prépare à un conflit avec Québec. La ville de Gatineau pourrait rapidement se retrouver en porte-à-faux avec le nouveau gouvernement caquiste de François Legault sur l'épineuse question de la consommation de cannabis dans les lieux publics. La Coalition Avenir Québec répète depuis septembre qu'elle entend interdire la consommation de cannabis dans tous les lieux publics de la province. Cette promesse a d'ailleurs été réitérée dès le lendemain de l'élection par le député de Bordua, Simon Jolin Barrette, qui occupe présentement le rôle de porte-parole du gouvernement élu. Il s'agit d'une position contraire avec celle mise de l'avant par Gatineau, qui s'est engagé à permettre la consommation de cannabis dans tous les lieux publics où le tabac est aussi permis. La ville de Gatineau dit se baser sur des informations scientifiques et des notions de santé publique pour appuyer sa position. Malgré les signaux clairs en provenance de Québec, le maire de Gatineau, Maxime Pinchot-Jobin, n'a pas l'intention pour l'instant de modifier quoi que ce soit au plan de match adopté en juillet dernier par le conseil municipal. On reste dans les pages du droit ici pour parler de l'Ontario cette fois, puisque les francophones seront dorénavant identifiés sur leur carte santé. C'est ce que rapporte Émilie Pelletier. Les francophones de l'Ontario pourront dorénavant identifier leurs préférences linguistiques sur leur carte santé. La motion déposée par la députée de Glengarry Prescott Russell, Amanda Simard, permettant de faire la collecte des données francophones et d'offrir des services plus adaptés aux francophones de la province, a été adoptée par l'unanimité à l'Assemblée législative de l'Ontario jeudi. À l'heure actuelle, dans le domaine de la santé, très peu de données concernant les francophones de l'Ontario sont recueillies. Amanda Simard est convaincue que cette période est révolue. Actuellement, il n'y a pas de données que les chercheurs peuvent utiliser. Cette motion permettra au patient de fournir son identité linguistique dans un contexte propice et non dans un moment de vulnérabilité, a affirmé Mme Simard, qui est aussi l'adjointe parlementaire à la ministre déléguée aux Affaires francophones, Caroline Mulroney. Cette motion survient deux semaines après que l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario ait publié son nouveau livre blanc santé appuyant cette mesure. Intégrer la langue à la carte santé est la première étape vers un système de santé plus performant, respectant davantage le contribuable et le patient, a souligné le président de l'AFO, Carole Jobin, dans un communiqué. Un mot pour vous parler de la chronique de Patrick Duquette qui salue un athlète hors norme, oui. Il n'y a rien à l'épreuve de Norman Côté. Le locataire du village Bruyères à Ottawa vient de remporter un championnat mondial de vélo stationnaire à 83 ans. Organisé par une entreprise norvégienne, le championnat mondial de cyclisme pour aînés en était à sa deuxième édition. L'épreuve récompense le participant qui accumule le plus long kilométrage dans un délai imparti de 25 jours.
Dans la cuisine, les couches et les commissions, le ménage, le lavage, le repassage puis les repas. Les enfants mettent même pas leur linge sale dans le panier. Bien sûr, maman est là. Apporte-moi donc une bière, viens donc voir mes devoirs. Oublie donc pas de recoudre les boutons de mon manteau. Pourrais-tu faire les comptes et mon rapport d'impôt? Bien sûr, maman est là. Et lui prend son bonbon tous les vendredis soirs. L'air de mettre un 30 sous dans sa machine à coke. Quand la machine veut pas, il prend son coke ailleurs. Son coke ou son cognac, ça dépend des humeurs. Sort les vidanges, puis elle s'occupe du chat. La première à se lever, la dernière à se coucher. A pas le temps d'être malade, a trop d'ouvrage pour ça. Bien sûr, maman est là. Un soir ils sont rentrés, maman n'était plus là. Ni le lendemain soir, ni le surlendemain. Au bout de quelque temps, les enfants l'ont revue, plus jeune et plus jolie qu'ils ne l'avaient connue. Mais lui n'a jamais su, ni pourquoi ni comment. La femme qui le servait avait sacré son camp. Film américain, sans le baiser de la fin. The end. Et puis, voilà.
Maman est là, Sylvain Lelièvre.
Et de là, on passe à l'actualité culturelle. À peu près tous les journaux au Québec faisaient écho au spectacle de Sir Elton John au Centre Bell hier. Spectacle qui a comblé les fans, la critique et dithyrambique. Le chanteur de 71 ans complète ainsi sa tournée d'adieu, puisque dans son cas, il annonçait qu'il cessait de faire de la tournée. Pour vous donner une idée, le verdict du Journal de Montréal, c'est irréprochable. C'est le mot qui nous reste en tête après avoir passé une soirée bercée par les hits d'Elton John. Il ne reste qu'à espérer que le chanteur revienne sur sa décision de mettre un terme sur sa vie de tournée. Après tout, il ne serait pas le premier. De là, on passe au théâtre et plus précisément à la dramaturgie québécoise. Le spectacle en hommage à Nelly Arcand sera présenté à Amsterdam, ce que rapporte la presse canadienne. Un spectacle québécois en hommage à l'écrivaine Nelly Arcand, disparue en 2009, est présenté à compter de ce jeudi dans un théâtre d'Amsterdam aux Pays-Bas. Il s'agit de la pièce « La fureur de ce que je pense » de Marie Brassard, qui avait été créée en 2013. Trois représentations ont été programmées. Christine Beaulieu, qui est l'une des interprètes de cette pièce, souligne qu'elle suscite de l'intérêt à l'étranger. On est allé à Madrid en avril dernier. La semaine dernière, on était à Limoges. Et là, on est à Amsterdam pour présenter le spectacle, a énuméré l'artiste en entrevue transatlantique avec la presse canadienne. il y a encore d'autres diffuseurs intéressés. Donc, moi, en ce moment, je réalise vraiment un rêve d'être ici parce que l'on est dans un des plus beaux théâtres du monde, le Stade Schaubourg. À Paris, on en est à régler les derniers détails de l'hommage à Charles Aznavour. Après les larmes est venu le temps des adieux pour les admirateurs de Charles Aznavour, monument de la chanson française qui a bercé des générations pendant une carrière longue de 70 ans et aura droit vendredi à Paris à un hommage national ouvert au public. La famille souhaite que le rassemblement et l'hommage populaire se déroulent aux Invalides, ont fait savoir les attachés de presse du chanteur décédé lundi à l'âge de 94 ans. L'inhumation se déroulera samedi, en revanche, dans la plus stricte intimité. Plus de 2000 personnes sont attendues vendredi matin pour cette cérémonie officielle solennelle et très encadrée, comme cela fut le cas pour Simone Veil et Jean d'Ormesson. Un hommage qui ne devrait pas avoir la dimension populaire de celui rendu à Johnny Hallyday en décembre en présence d'une immense foule dans les rues parisiennes. Autour du cercueil recouvert du drapeau français seront présents les enfants du chanteur, quelques 200 personnalités du monde du spectacle, des politiques, des admirateurs en fonction des capacités d'accueil, le président Emmanuel Macron avec à ses côtés le premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président Armen Sarkissian. Né Charnour Varinag Aznavourian à Paris en 1924, Charles Aznavour était l'un des représentants les plus symboliques de la diaspora d'Arménie, pays qu'il découvrit dans les années 60 et avec lequel il a entretenu des liens étroits tout au long de sa vie, en particulier après le terrible séisme de décembre 1988. En référence à sa double culture, la Marseillaise et l'hymne arménien seront joués par la garde républicaine au cours de la cérémonie, retransmise en direct sur 5 chaînes. Allez, même à vous qui n'êtes pas des fans avérés de culture, des maniaques de théâtre alternatif ou de danse archi-moderne, il y a au moins un volet de la culture qui vous rejoint tous les jours et même trois fois par jour, la gastronomie. Eh bien, sachez, Mario Girard nous en parle, qu'il y aura une nouvelle foire gastronomique 2.0 qui va s'installer au quartier des spectacles. À la manière des fameux food halls new-yorkais, le projet central, Gastronomie Montréal Style, verra bientôt le jour en plein cœur du quartier des spectacles. La presse a appris qu'une entente vient d'être conclue avec la société de développement Angus afin de faire du rez-de-chaussée du futur Carré Saint-Laurent le grand rendez-vous des amateurs de gastronomie. Le nouveau domicile du Centre d'histoire de Montréal et de centaines de fonctionnaires va mettre en valeur le savoir-faire gastronomique de chez nous en lui consacrant une superficie de 22 000 pieds carrés sur laquelle seront rassemblés pas moins de 25 restaurateurs. On aura accès à cette foire alimentaire à partir des rues Sainte-Catherine et Clark ainsi que du boulevard Saint-Laurent. La mise en place des installations est prévue pour février prochain. Quant à l'ouverture, elle devra avoir lieu en juin 2019. C'est La Tribu, une firme dont la réputation n'est plus à faire dans le domaine de la musique, du spectacle et du divertissement, qui assurera la gestion du projet. On hésite à utiliser le terme « foire alimentaire » car ce sera beaucoup plus que cela, explique Stéphanie Moffat, responsable du projet. Chose certaine, on veut mettre l'accent sur le talent d'ici. Cet objectif est également le souhait de Danny Saint-Pierre, directeur culinaire pour La Tribu. Ce dernier, qui assurera la coordination du Central Gastronomie Montreal Style, recrute actuellement des restaurateurs. Il n'y aura pas de chaîne commerciale. Ce n'est pas cela qu'on veut. On veut offrir un Polaroid de notre talent culinaire. Monsieur Saint-Pierre insiste sur la qualité qu'il souhaite offrir au public. La nourriture que l'on retrouve dans les centres commerciaux est souvent à base de fritures ou de féculents. Je veux qu'on dépasse cela. Il est grand temps que l'on passe à une nouvelle génération de restaurateurs dans ce type de lieu. Je veux de la qualité et de la cohérence. Selon nos informations, une vingtaine de restaurateurs ont signifié leur intention de s'installer au Central. Je peux vous dire que les clients auront droit à des soupes chinoises, des smoked meat, des poulets portugais, à de la cuisine indienne nouvelle vague et à de la fine cuisine japonaise, dit Saint-Pierre. Nous sommes aussi en pourparler avec un boulanger de marque, deux propriétaires de cafés et un producteur de produits gaspésiens. Allez, on parle de poésie avec un texte écrit par Catherine Lalonde dans Le Devoir intitulé « Amour, délices, orgue et poésie ». Et si vous vous demandez pourquoi on retrouve souvent les « amour, délices et orgue » ensemble, eh bien sachez qu'en français, ce sont trois mots qui changent de genre quand on les met au pluriel. Eh oui, c'est comme ça. Ça a commencé comme une lutte pour éviter la vente de l'église de Sainte-Mélanie. Ce sera devenu, autour de l'orgue Casavant de cette dernière, un festival culturel, le premier de cette petite municipalité de Lanaudière, sise à quelques 2 heures de Montréal comme de Québec. Le premier, pas tout à fait, car la pionnière et poétesse Louise-Amélie Panet, qui vécut de 1789 à 1862, tenait là, il y a plus d'un siècle et demi, salons et soirées littéraires. Retour vers le passé. Ces textes seront relus et à voix haute auprès de ceux de poètes et d'auteurs contemporains, Carole David, Amadou Salmine, Salles, Simon Boulris, Jean-Paul Daou et consorts, lors de la première édition de ce rendez-vous couleur, orgue et poésie de Sainte-Mélanie. Ça fait 34 ans que je vis à Sainte-Mélanie, explique en entrevue le coloré poète Jean-Paul Daou, un des instigateurs de l'événement. J'ai toujours mon appart à Montréal, on m'enlèvera pas la ville, mais je trouvais ça plate dans ce très charmant village qu'il ne se passe rien. J'espère mettre Sainte-Mélanie sur la carte culturelle du Québec, mais je ne voulais pas non plus pour ça d'un festival du cochon qui tousse. C'est au cours de réunions informelles de citoyens cherchant à sauver l'Église, qui n'est par ailleurs plus en danger d'être vendue, la fabrique s'étant depuis ravisée, que l'auteur des Odes radiophoniques, publié au poète de Brousse, a soulevé l'idée d'utiliser l'orgue pour des soirées de poésie et musique. J'ai vécu ça une fois à Charleville, la ville natale de Rimbaud. C'était extraordinaire. C'est un nouvel alliage poésie et musique qui emmène la poésie à une autre dimension. Ça donne tout un envol. Les peintres de la région se sont tout de suite ralliés à l'idée, la transformant dans l'élan. Dont acte. Il y aura 2 spectacles autour de l'organiste Luc Beauséjour de Daou et de la chanteuse Chloé Sainte-Marie. Pour le premier, elle sera encadrée d'un chœur de 20 voix et les poètes Sal Boulris, David et Queen K liront aussi. Lors du deuxième, ce seront Frédéric Généreux, Marco Geoffroy et Anne-Marie Poisson qui diront leur texte. Sylvain Cormier du Devoir nous fait cet aveu terrible. Il ne connaît pas bien le catalogue de Joni Mitchell, au-delà des évidences. Both Sides Now, Chelsea Morning, Coyote, Footstock, Help Me, Freeman in Paris, Big Yellow Taxi, l'album Blue. Constat sympathique, l'album Portrait Songs of Joni Mitchell que propose l'exceptionnel pianiste Marianne Trudel et la non moins extraordinaire Karen Young lui donne fichtrement envie de plonger oreille première, voire corps et âme dans les 18 autres albums de l'illustrissime auteur-compositrice-interprète. Marianne et Karen rient de bon cœur et Karen ne manque pas de compassion. C'est OK de commencer maintenant, et si c'est un peu à cause de nous, I'm glad. La carrière de Joni Mitchell, c'est tellement vaste. Il y a toujours à découvrir et à redécouvrir, même en cet automne où l'on va célébrer les 75 ans de l'artiste lors d'un grand concert hommage à Los Angeles les 6 et 7 novembre. Il faut croire qu'il n'est jamais trop tard pour se trouver un point de départ, même s'il s'agit en l'occurrence du résultat d'études appliquées et prolongées du répertoire. Un album d'un tel raffinement, d'une telle liberté, d'un tel respect et d'une telle qualité ne va pas sans une connaissance approfondie de l'œuvre. Elles n'ont pu colorer ce portrait qu'après avoir beaucoup, beaucoup tracé les contours des mélodies et lu jusqu'entre les lignes cette poésie chansonnière si singulière. J'ai grandi avec les disques de Joni Mitchell et je n'ai jamais arrêté de grandir avec elle, résume Karen Young. Pareillement, Marianne Trudel a beau posséder tout le pan jazzy du corpus sur le bout des doigts, l'étonnement l'attendait à tous les détours d'arpège. On est encore émerveillé par la richesse de ce qu'elle a créé. Une grande partie de notre bonheur dans ce projet a été de passer du temps avec des chansons vraiment moins connues. The Dry Cleaner from Des Moines, par exemple, ou Man from Mars. Aller très loin. L'autre grand bonheur, et le grand vertige aussi, continue-t-elle, c'est l'étendue des possibilités. Ce sont déjà des chansons parfaites et parfaitement interprétées, néanmoins ouvertes, en formule piano-voix. Je pouvais aller très loin, et Karen aussi, parce que la poésie de Johnny ne peut pas être ailleurs qu'en avant. Très loin? Achetez l'album et allez écouter ce que devient Shine. Le jeu est stupéfiant d'invention, mais sans jamais perdre la chanson de vue. Note. Procurez-vous le disque physique, je vous en prie. Le projet n'a bénéficié d'aucune subvention. La campagne de sociofinancement piétine et c'est franchement injuste. Ce portrait mérite la lune. Allez, dans le paysage radiophonique montréalais, il y a un nouveau venu. Marie-Josée Roy nous en parle dans le Journal de Montréal, qui fait une grande place à Cube, QUB, la nouvelle ère de la radio, selon, évidemment, Québecor. Cube est lancé, la radio numérique de Québecor, qui rassemble des têtes d'affiche comme Benoît Dutrisac, Mario Dumont, Richard Martineau, Sophie Durocher, Bianca Lompré et Geneviève Peterson, verra officiellement le jour le 15 octobre et pourrait causer une petite révolution en s'imposant parmi les gros joueurs traditionnels de la radio parlée. Le nom QUB, prononcé Cube, évoque la province de Québec et le contenu national de la nouvelle plateforme qui rejoindra tout le monde, a-t-on insisté, lors du dévoilement officiel au 19e étage du siège social de Québecor jeudi après-midi.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent, mes 20 ans?
Hier encore, Charles Aznavour.
Et oui, le regretté Charles Aznavour et sa voix si particulière. On va quand même passer à des sujets un peu plus légers que sa disparition. Quoiqu'il s'agit d'une disparition aussi, mais c'est très sérieux, hein? Le patron chinois d'Interpol est porté disparu, puisque Interpol, c'est l'organisation mondiale qui aide qui permet aux corps de police de collaborer. C'est basé à Lyon, en France. Et en toute première fois, il y avait un patron chinois. Bon, il est parti de France, il est rentré en Chine voir sa famille et il a disparu, ce que rapporte l'agence France-Presse. Une enquête pour disparition a été ouverte en France concernant Meng Hongwei, le président chinois d'Interpol à Lyon, dont la famille n'a plus de nouvelles depuis son départ vers la Chine fin septembre, a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier. C'est son épouse qui a signalé sa disparition aux autorités françaises en faisant part de son inquiétude, a ajouté l'une de ses sources, confirmant une information de la radio Europe 1. Il n'a pas disparu en France, a souligné cette source. L'enquête a été ouverte à Lyon, siège mondial de l'Organisation internationale de coopération policière. Avant d'être élu fin 2016 à la tête d'Interpol en remplacement de la Française Mireille Belstrasi, Meng Hongwei occupait le poste de vice-ministre de la Sécurité publique et était un poids lourd du Parti communiste chinois. Selon Europe 1, son épouse est installée à Lyon avec leurs enfants. Elle est entendue par la police judiciaire. M. Meng a quitté la France le 29 septembre. Mon Dieu, où va-t-on si le chef de la police d'Interpol disparaît? Allez, on reste en France pour une étrange émission de radio. Vous allez voir, juste après le titre qu'accole Marie-Renée Girgrondin à son texte, François Legault dépeint comme un xénophobe d'extrême droite à la radio française. Décidément, les médias français n'ont rien compris. Depuis son élection à la tête d'un gouvernement majoritaire, le chef caquiste François Legault est dépeint par certains comme étant anti-immigration ou encore comme ayant battu Justin Trudeau. Eh oui, on aura tout lu. La plus récente aberration fut commise mercredi lors de l'émission Les Grosses Têtes, l'émission phare de RTL, parmi les plus écoutées en France et animée par Laurent Ruquier. Il y était question brièvement de l'élection générale du Québec et évidemment de François Legault, qui fut dépeint comme un mec d'extrême droite, xénophobe, nationaliste, défendant un programme libéral contre l'immigration. « C'est partout, voyez, même au Québec !» s'exclame l'animateur. On aura tout entendu. Rappelons que mardi, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a encensé le gouvernement de François Legault sur Twitter, qu'elle a qualifié d'anti-immigration, reprenant les termes du quotidien Le Parisien. Mercredi, François Legault a tenu à rejeter toute association avec Madame Le Pen. « Nous allons accueillir des milliers d'immigrants chaque année, mais nous allons le faire d'une façon qui favorise l'intégration. On va en prendre moins, mais on va en prendre soin », a-t-il réitéré. Et Christian Bégin se ramasse au centre d'une controverse qu'il n'a pas voulu, vous allez voir laquelle, Sandrine Vincent, Journal de Montréal, des défenseurs des animaux en colère contre l'emballage d'un produit de Curieux Bégin. De nombreuses pages de groupes de défenseurs des animaux sur Facebook s'insurgent contre l'emballage d'un produit alimentaire signé Curieux Bégin, car ils jugent qu'il édulcore la réalité des animaux d'élevage. Sur la boîte de Curieuse Polpette de Porc, un produit signé par l'animateur et comédien Christian Bégin, se retrouve une bande dessinée mettant en vedette des cochons heureux, bien élevés et bien nourris qui se bousculent à la porte d'un abattoir pour être transformés en boulettes. Bien qu'il ne s'agisse que d'un dessin, plusieurs personnes ont trouvé inappropriée la façon dont l'abattage des suidés y est banalisé. Vu au Rachel Berry, les boulettes de Curieux Bégin faites de porc heureux d'aller à l'abattoir, indique la page Facebook Vivre sans cruauté par Marie-Noëlle Gingras. Dans les commentaires de la publication relayée par de nombreux défenseurs des droits des animaux, plusieurs personnes jugent également que la bande dessinée manque de respect envers les animaux qui passent à l'abattoir. Allez, une histoire touchante, si vous avez des préjugés envers les gamers, vous savez, ces adolescents de 12, 13, 42, 63 ans qui passent leur journée devant leur console, eh bien, vous allez voir, ça peut être du bon monde de temps à autre. Une bande de gamers se rencontre dans la vraie vie, on dit IRL sur le web, pour une raison touchante. La nouvelle touchante des derniers jours nous vient du forum Reddit où un utilisateur, le néo-brunswickois David Miller, 19 ans, a partagé une photo de lui et cinq de ses amis dans un hôpital.
Le fait particulier, outre le lieu où la photo a été prise, c'était la première fois que ses amis, qui se sont connus en jouant à des jeux en ligne, se rencontraient en chair et en os. On a joué à plusieurs jeux ensemble au fil des 5 dernières années, a confié Miller à la BBC dernièrement. La raison est toute particulièrement émouvante. L'un des membres du groupe, Joe, 23 ans, a appris cet été qu'il était atteint d'une forme rare et incurable de cancer des os, le sarcome d'Ewing. On s'est toujours dit qu'on allait finalement se rencontrer, mais une fois qu'on a appris la nouvelle, on a su que notre temps était compté, ajoute-t-il. Le groupe s'est donc retrouvé dans le New Jersey où Joe est actuellement hospitalisé. La rencontre dans la vraie vie n'était pas différente des séances de jeu pour les amis, selon Miller. C'était comme d'habitude, note-t-il, avant d'ajouter que c'était un rêve qu'on avait depuis nos premières années et c'est fantastique que ce soit finalement arrivé. L'image est devenue fort populaire sur Reddit et a mené à plusieurs discussions sur la façon dont les jeux vidéo en ligne peuvent permettre de nouer des relations d'amitié. Jouer mène à des communautés tissées serrées. C'est fou ce qu'on peut faire pour chacun, note l'utilisateur Forever in a Daze. Au Texas, on a encore le sens des valeurs morales les plus strictes, les plus sévères. Alors un bordel, oui, mais un bordel avec des robots, pas question, ce que rapporte l'AFP. Une ville américaine s'oppose à la première maison close de robots. La ville texane de Houston s'est opposée mercredi à l'ouverture aux États-Unis du premier magasin de poupées sexuelles robotisées présenté comme un bordel. Kinky Stoll, une entreprise canadienne basée à Toronto, comptait s'étendre à Houston. Elle commercialise des poupées sexuelles qui, selon elle, sont dotées d'intelligence artificielle leur permettant d'interagir avec des hommes à la recherche de compagnie, précise-t-elle sur son site. Les clients auraient eu la possibilité d'essayer ces poupées avant de les acheter à un prix tournant autour de 3 000 $ en fonction des accessoires dont elles sont dotées. Bref, une maison close de robots, ont conclu les médias locaux, même si le propriétaire de Kinky's Dolls s'est défendu de tout proxénétisme. « Nous ne sommes pas un bordel », a-t-il déclaré au Toronto Sun sous couvert d'anonymat. « Nous sommes un magasin, nous sommes là pour vendre des poupées », a-t-il ajouté. « Ce n'est pas le genre d'affaires que je veux voir dans la ville de Houston », a tranché Sylvester Turner, le maire de la métropole texane. La municipalité a donc mis à jour une loi vieille de 20 ans sur le commerce des activités sexuelles pour y inclure les objets technologiques. Les poupées sexualisées peuvent être vendues, mais ne peuvent pas être utilisées, a détaillé Sylvester Turner. Vous ne pouvez pas avoir d'activité sexuelle avec un objet inanimé vendu par Kinky's Dolls, a-t-il résumé. Dans la catégorie « Il y a encore du bon monde », une nouvelle qui nous vient de San Diego. Il trouve 46 000 $ américains dans un centre de dons et le redonne. Un employé d'un magasin d'économie sociale de Goodwill Industries à San Diego a les projecteurs braqués sur lui depuis qu'ils ont su qu'il a trouvé plus de 46 000 $ américains accompagnant un objet remis en don par une famille locale. Le 25 août dernier, Jesse Diaz avait commencé sa journée normalement au centre de dons de Del Cerro, un quartier de San Diego, où il classe chaque jour des centaines de boîtes d'objets donnés, mais où il est affecté à l'essai des appareils électroniques. Cette journée-là, il est tombé sur une boîte contenant une friteuse à tempura qu'il comptait tester. Or, il y a trouvé 46 000 $ qu'il a rendu à l'organisme. Et voilà qui conclut cette édition du 5 octobre. Merci à Maurice Bolduc et à mardi.